Vous êtes assis devant des péniches bleues et rouges bordeaux dont le bois patiné laisse s'échapper des plantes épanouies, même en plein automne. Les coques grincent légèrement, elles reposent sur une eau endormie. Vous vous penchez un peu, peut-être souhaitez-vous débusquer une ombre de poisson. Un éclat blanc attire votre attention. Non, ce n'est pas votre reflet qui vous happe. Vous n'êtes pas Narcisse, vous n'êtes pas un jeune éphèbe assoiffé après des heures de chasse. Vous êtes un Lyonnais, un étudiant ou un visiteur, peu importe. En tout cas, vous êtes à Lyon, et plus exactement, devant le musée des Confluences. Détachez donc votre regard des péniches et tournez-vous légèrement vers la droite. C'est ça. Bon, que voyez-vous, Juliette, Colline, qu'est-ce que vous voyez quand vous voyez le musée des Confluences ?
Ça me fait penser à une peau de serpent argentée et ça me rappelle la cité de la musique à Paris parce que c'est le même architecte. Je trouve ça beau. L'espèce de serpent enroulé.
Moi, ça me fait penser à une espèce de grosse carapace d'un monstre qui se serait échoué et qui serait reparti dans l'eau et qui aurait laissé juste sa carapace.
Ah oui, d'accord. Vous avez beaucoup d'imagination et surtout animal. En fait, moi, j'imaginais plutôt une bâtisse aérienne dont la clarté n'a d'égal que la légèreté. Donc je suis finalement très terre-à-terre. c'est marrant. En tout cas, au confluent du Rhône et de la Saône, ces trois matériaux se conjuguent avec harmonie. Ces trois matériaux, ce sont le béton, le verre et le métal. Ils s'enchevêtrent, se supportent et semblent s'épanouir à leur gré, comme les plantes sur les péniches. Leur union accomplit à merveille la philosophie du lieu, car le musée des Confluences, à la pointe sud de la Presqu'île, c'est avant tout un lieu où science et art se mêlent. L'architecture a été finement conçue. Kop Himmelblau, le gagnant du concours lancé en 1999 par le président du conseil départemental du Rhône, à l'époque Michel Mercier, a séduit le jury avec son projet déconstructiviste, probablement donc ce qui est le cas pour la Cité de la Musique à Paris.
Attends Sarah, un projet déconstructiviste ? Drôle de nom pour de la construction de musée.
Ah, mais qu'est-ce que le déconstructivisme ? Quittons un instant les eaux lisses de ces lieux et plongeons-nous dans la toile. Wikipédia semble d'accord avec vous. Il semble a priori absurde, je cite, voire contradictoire, de vouloir déconstruire ce qui appartient au domaine de la construction. Fin de la citation. En fait, le marteau du déconstructivisme ne vise pas à tout démolir n'importe comment, loin s'en faut. Il s'agit bien plutôt de démolir les idoles surannées d'une architecture plus classique, conventionnelle, reposant sur les lois de la physique et de la raison, c'est-à-dire que les bâtiments sont des bâtiments et pas des serpents d'eau ou des monstres. S'inspirant largement de la méthode d'Héridienne en ce qui concerne l'analyse de textes littéraires, l'idée est ici d'ouvrir l'espace et de mettre en scène l'impossible. Revenons au musée des Confluences et observons-le de plus près, si vous voulez bien. Il est constitué de trois grands ensembles, le cristal, le nuage et le socle. Bien sûr, un socle bien solide en béton clair pour soutenir les impressionnantes verrières du cristal, allégorie de l'ouverture sur le monde. Imaginez, quand vous pénétrez le musée, vous ne perdez pas de vue le ciel. Il reste là, et vous traversez 40 mètres de verre avant d'atteindre le nuage. Or, vous savez tous ce qu'est un nuage, n'est-ce pas ? Des milliards de gouttelettes condensées qui flottent au-dessus de votre tête, et parfois s'y déversent aux grandes dames des promeneurs et dames au brushing tout frais. Notre nuage à nous n'est pas si léger qu'il n'y paraît. Cette structure de métal, essentiellement d'inox en fait, et qui constitue l'élément flottant du musée, elle est bien d'apparence aérienne, mais elle pèse en réalité 6000 tonnes. 6000 tonnes tenant en équilibre sur trois piles de béton. Impressionnant, non ? Et dire que certaines églises gothiques se sont effondrées sur la tête de malheureuses ouailles pour moins que ça.
Ou comme les immeubles de Marseille. La grande force du déconstructivisme architectural, c'est donc la distorsion et la concrétisation de l'impossible. Serait-ce donc un simple jeu de virtuose fantaisiste ?
Pas seulement. Si cette esthétique s'appuie beaucoup sur les théories critiques de Derrida, notons au passage que l'architecture s'appuie énormément sur la philosophie, elle vise aussi à montrer les réalités urbaines. Le quartier des Confluences est un espace propice à cet exercice, je pense. Car si je vous dis « Et si nous flânions à Debourg ?», vous pourriez me rétorquer qu'une balade le long des quais de Saône ou au cœur du vieux Lyon serait plus agréable. Debourg, c'est ce sud lyonnais que l'on a tendance à fuir, il me semble. Cet endroit qui vous inspire d'autant plus la grimace qu'il rappelle l'école. L'école, les fourgonnettes de prostituées, les avenues polluées et les interminables opérations de grutage. Pas très glamour. On y trouve des logements sociaux, des bars dont l'apparence peu engageante est à peine dissimulée derrière une maigre verdure. Ici, la police veille au grain des épiceries, les anecdotes un peu surdites pullulent. Ce n'est clairement pas un lieu de culture. C'est là où atterrissent les foyers chassés par la gentrification des quartiers plus historiques, ou bien les étudiants en galère, la galère faisant aussi bien partie de la vie étudiantine que les devoirs de dernière minute et les terrasses entre Chevreul et Guillotière. Entre autres, on a implanté ici un campus d'élite, des mouflons et un musée, histoire de compenser un peu avec la misère des lieux. Bref, des lieux où de potentiels conflits sociaux sont gommés derrière le masque lisse de façades indifférentes. Et le déconstructivisme, bam, il vient démolir toutes ces images. De l'ordre, mais est-ce qu'une ville a une gueule d'ordre? Pas du tout. L'esthétique des bureaux autrichiens Kop Himmelblau refuse de nier le désordre et les tensions intrinsèques aux villes humaines. Au contraire, elle en expose fièrement le reflet dans un élan à la fois lucide et idéaliste, puisque le musée des Confluences incarne quand même une volonté d'alliance. Ces blocs de matériaux disparates sont solidaires les uns des autres, de même que ces expositions cherchent à plaire à tous, en associant science et art, ludique et instructif. Dans sa politique accommodante, parce que par exemple c'est gratuit pour nous, comme dans son architecture, le musée se veut à l'image des lieux qu'il habite, la fameuse pointe où deux eaux s'épousent sans bruit.